Radio Okapi. À la présentation du journal, grâce Hamzati.
À la une de l'actualité, les consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale se poursuivent à Kinshasa. Les formations politiques de l'Union sacrée, telles que ANB de Guy Luando, MLC de Jean-Pierre Bemba, expriment leur volonté de voir la RDC disposer d'un gouvernement capable d'établir une armée forte à l'issue de ces consultations. Dans ce journal, nous parlons du nouveau rebondissement dans l'affaire assassinat du journaliste Patrick Adonis dans la ville de Lubumbashi. Quatre nouveaux suspects ont été présentés au gouverneur du Haut-Katanga hier à Lubumbashi, s'ajoutant aux 8 détenus déjà condamnés à mort. Pendant ce temps, le cerveau de ces drames reste en cavale. 2 500 000 dollars américains, c'est la première tranche d'indemnisation des victimes reçue par l'Église catholique dans la province de la Tchopo. Cette somme, issue du fonds de réparation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, vise bien entendu à compenser les dommages subis lors de la guerre des 6 jours. L'autorité épiscopale locale fait le point sur la répartition et l'utilisation de ces fonds par les entités bénéficiaires. L'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani, Mgr Léonard Ndjadi, est l'invité de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons tout d'abord à Nitouri, précisément dans les territoires des Djougou, où on nous apprend que dans la journée de ce jeudi, il y a eu des combats entre la milice Codeco et les forces armées de l'armée ougandaise. Ezekiel Muzalia.
Des sources concordantes dans la région rapportent que des miliciens des Zaïre ont fait incursion jeudi dans le village d'Androu, chef-lieu du groupement Fataki. Sur place, ils auraient incendié plusieurs maisons d'habitation et emporté des biens de valeur. Une situation qui a provoqué un nouvel exode des populations vers Loda. Il n'en fallait pas plus pour que la Codeco s'invite au débat. Ces miliciens ont repoussé ceux des Zaïre jusqu'au niveau du village de Bethléem, où ils se seraient réfugiés, rapportent nos sources. Ce qui a eu pour conséquence la reprise des combats entre les troupes de l'armée ougandaise et la Codeco. Plusieurs villages, notamment ceux situés sur les tronçons Djaïba, Sanduku et une partie de Fataki, sont vidés de leurs habitants à la suite de ces affrontements. Des milliers d'entre eux passent la nuit à la Belle Étoile, d'autres à côté de la base de la MONUSCO. L'administrateur du territoire des Djougou indique que les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour dénicher les auteurs de ces actes de violation des droits de l'homme. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Merci beaucoup à vous Ezekiel Muzalia. Ezekiel, mesdames et messieurs, qui nous parlait justement des nouveaux affrontements qui ont été signalés hier entre la milice Codeco et les troupes de l'armée ougandaise UPDF dans les villages Bethléem vers Fataki. En politique, les partis politiques et autres regroupements de l'Union sacrée tels que ANB de Guy Luando, MLC de Jean-Pierre Bemba, UDPS Kibasa, AABG de Guilain Nyembo donnent aussi de la voix dans le cadre des consultations politiques en cours au pays. Ils réaffirment leur volonté de voir la RDC disposer, après ces consultations, d'un gouvernement capable de redonner la dignité aux Congolais au travers d'une armée qui mettra fin aux velléités agressives du Rwanda contre la RDC. Ils se sont exprimés ainsi hier après leurs échanges avec le conseiller spécial Eberhan Kolongele, Billy Van Lutumba.
En nous portant au pouvoir, le peuple congolais attend de nous de recouvrer l'intégrité territoriale, la pacification du pays et la réaffirmation de la souveraineté, clame Guy Luando de l'ANB.
Ce qui compte à la fin de cet exercice, c'est de pacifier le pays. On n'est pas là à la recherche de postes. Nous avons de grandes attentes au-delà de la sécurité, au-delà de la problématique de la réaffirmation de notre souveraineté, mais il faut régler les problèmes de la population. C'est ce qui importe. Nous nous sommes là pour parler intérêt de la population, pas pour nous. C'est ça mon souhait, que ces consultations aboutissent à ce que la population trouve sa part.
Fidel Babala, s'exprimant pour le compte du MLC et tous ses alliés, déclarent que l'heure est venue où la RDC doit disposer d'une armée véritable sentinelle de l'État congolais.
Ce qui est important, c'est de pouvoir faire en sorte que nous ayons un gouvernement qui puisse agir et surtout donner à ces pays une armée qui soit une véritable sentinelle de l'État, qui protège et qui rende la dignité aux Congolais.
Pour Augustin Kibasa, les affres de la guerre ne s'abattent pas que sur les membres de la majorité. Il interpelle ainsi l'opposition en ces termes.
Les opposants aussi doivent noter que ce n'est pas une guerre qui est faite au président de la République. Quand ça crépite à l'Est, quand on tue les gens, ce ne sont pas soit des gens de la majorité ou les gens de l'opposition. On tue les Congolais. Je suis plus que convaincu qu'on finira par trouver une formule qui va faire en sorte que les uns et les autres comprennent. Il ne s'agit pas de l'opposition de la majorité, il s'agit vraiment de protéger ce pays.
Signalons qu'après ces rencontres avec l'Union sacrée, les consultations politiques s'ouvrent à l'opposition, à la société civile, aux personnalités et à la diaspora dès ce jour, signale la cellule de communication.
Nous appelons la population de l'Ituri à soutenir les opérations conjointes FRDC-UPDF qui seront menées dans les jours qui suivent contre les groupes armés réfractaires au processus de paix. Déclaration faite ce vendredi au cours d'un point de presse à Bunia par le ministre Mwindo Nzangi, qui fait partie de la délégation de l'état-major général des FRDC à mission en Ituri. Il précise que ces opérations sont l'œuvre de la volonté du président Félix Tshisekedi et son homologue Ougandé Yoweri Museveni, ce qui justifie selon lui l'arrivée à Bunia d'une délégation des éléments de l'armée ougandaise UPDF, conduite par le chef d'état-major de la force terrestre, le général Muhanga Kayanja. Objectif, harmoniser les points de vue avant de lancer ces opérations. Mwindo Nzangi est au micro de Martial Kiza Biamungo.
Nous sommes venus rencontrer la délégation ougandaise qui était conduite par son ambassadeur et le chef d'état-major force terrestre, le général Kayanja. Nous sommes venus dans une mission d'harmonisation. Harmonisation des points de vue. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de propagande au niveau des réseaux sociaux contre l'opération conjointe que nous avons. Et donc notre présence ici, c'est pour réaffirmer que l'opération conjointe qui est menée par UPDF et les FRDC, c'est une opération qui a le consentement du gouvernement congolais et du gouvernement ougandais. Nous demandons à la population d'appuyer cette opération. Nous demandons à la population de demander aux groupes armés, des communautés, puisqu'on est dans cette logique-là, de déposer les armes, de s'inscrire dans un processus de paix, puisque nous voulons la paix. Aujourd'hui, la première opération, c'est réduire les risques sur la RN25. Et ça doit être fait, sur la RN25, ça doit être fait très rapidement, puisque c'est pour les bénéfices de la population que les opérations vont se faire.
La délégation des officiels ougandais est retournée aujourd'hui matin en Ouganda. Par ailleurs, le vice-ministre de la Justice et Contentieux International appelle la population de Bukangalonzo à la vigilance tous azimuts. Samuel Mbemba a lancé cet appel lors de son retour de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, dans le cadre de la campagne contre l'agression rwandaise. Il a également encouragé les jeunes de ces coins du pays à s'enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité du territoire. C'est au cadre du Parti Convention pour la République et la démocratie a en outre prêché la cohésion et l'unité nationale. Les propos de Samuel Mbemba, recueillis par Irène Mbomaluzolo.
Notre pays est agressé par les ennemis de la paix. Les Rwandais sont tentés d'attaquer la République démocratique du Congo. Ils veulent annexer une partie de notre territoire. Est-ce que nous allons l'accepter? Il faut que tout Congolais puisse se mettre debout, se battre pour ce pays. Ici à Bukangalonzo, si vous voyez un inconnu, il faut bien les contrôler, voire les surveiller. Je demande aux populations de Bukangalonzo de veiller pour ne pas laisser les passages aux agresseurs. Que les ennemis du pays ne passent pas par vous. Que les jeunes puissent s'enrôler dans l'armée pour mieux défendre notre pays. Les papas, les mamans et les compatriotes, soyez vigilants nuit et jour, comme c'était à l'époque où tout Congolais avait fait preuve de vigilance. C'est le message que le chef de l'État a envoyé à travers la première ministre Judith Suminwa dans la province du Kwango.
28 mars 2025, 8 ans, jour pour jour, depuis les événements tragiques entre les miliciens de Kamuina Nsapu et les forces armées de la RDC dans la ville de Kananga, au Kasaï central. Des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des violences sexuelles et des pillages ont été commis de porte à porte dans la commune de Nganza lors de ces affrontements. À cette occasion, l'ONG Société Congolaise pour l'État des Droits déplore le fait que 8 ans passés, les victimes attendent toujours justice et réparation. Maître Dominique Kambala est au micro de Vanessa Kongolo.
La Société Congolaise pour l'État de Droit note que ce 28 mars 2025, 8 ans, jour pour jour, Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, a été le théâtre d'affrontements armés sanglants entre les forces de défense et de sécurité opposées à la milice Kamuina Nsapu. Ces affrontements ont provoqué des graves violations des droits de l'homme, pouvant être qualifiées en termes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et des violences sexuelles en période de conflit. Et que donc, la société remarque que 8 ans déjà, l'impunité est au rendez-vous. Le dossier de Nganza, la commune qui a été l'objet d'une opération porte-à-porte effectuée par les hommes en uniforme, ce dossier n'a toujours pas été renvoyé devant les instances judiciaires, ce qui rime à un délit de justice, alors que l'impunité est incompatible avec la paix et l'état de droit.
Nous l'avons dit dans les titres, rebondissement dans l'affaire du meurtre du journaliste Patrick Adonis à Lubumbashi. Quatre présumés auteurs de ces drames ont été présentés ce jeudi au gouverneur des provinces. Ils viennent s'ajouter aux autres membres de la bande déjà jugés et condamnés et qui sont en prison. Entre-temps, le cerveau moteur de ces drames et leader de ces malfrats est encore en cavale. Les services de sécurité rassurent qu'ils sont toujours à sa recherche. À Lubumbashi, Jean Gandou.
Ils sont quatre arrêtés respectivement dans les communes de Kenya et de Katuba. Deux sont accusés d'avoir participé activement au meurtre du journaliste. Les deux autres sont poursuivis pour détention et vente du téléphone de l'illustre disparu. Pour les services de sécurité qui les a présentés, durant leur audition, ils sont passés aux aveux en reconnaissant leur présence sur les lieux du drame et leur implication dans la mort du journaliste Patrick Adonis Numbi. Interrogés à ce sujet par le gouverneur de province, tous ont rejeté les faits portés contre eux, tout en affirmant qu'ils ont reconnu à cause des actes de torture qu'ils ont subis en détention. Malgré cela, le gouverneur Jacques Kiaboula rassure les journalistes présents.
Les enquêtes se poursuivent. Ça sous-entend que nous continuons, bien que le jugement ait été rendu, mais nous continuons pour qu'on mette la main sur les tout derniers suspects qui est en cavale. Les services, merci beaucoup pour ce travail. Ça montre que, effectivement, les services de sécurité fonctionnent comme il se doit.
Notons que le mois dernier, 8 personnes accusées d'avoir participé à ce drame était condamné à la peine capitale. Patrick Adonis Numbi était tué dans la nuit du 7 janvier 2025 par des inconnus à coups de machette. Son corps était retrouvé à la hauteur de l'arrêt Kabolela, au quartier Jekamine, dans la commune de Lubumbashi. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Rendons-nous à Beni au Nord Kivu, où une femme se démarque dans un métier encore largement dominé par les hommes. Imelda Mbambu, sexagénaire et mère de 9 enfants, est la seule femme conductrice de moto-taxi dans la ville. Depuis plus de 10 ans, elle sillonne les routes, défiant les préjugés et prouvant que ce travail peut aussi être une opportunité pour les femmes. Son parcours force l'admiration aussi bien de ses clients que de ses collègues masculins. Guylaine Kassassia pour le reportage.
Âgée de plus de 60 ans, Imelda Mbambu, mère de 9 enfants et conductrice de moto-taxi, elle effectue ce travail où les clients l'indiquent à Beni, à Butembo, voire même dans la province voisine de l'Ituri. Quelle est la motivation d'Imelda Mbambu?
J'ai trouvé que la vie n'est pas facile à mener. Voilà pourquoi j'ai appris à conduire la moto. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai acheté ma propre moto. Dans les temps, j'ai appris plusieurs petits métiers comme la vente des braises. J'ai même fait de la couture. Mais j'ai trouvé que cela n'était pas rentable pour la survie de mes enfants.
Imelda Mbambu mène actuellement une vie aisée grâce à ce métier de moto-taxi.
Le travail de moto-taxi, c'est un beau travail parce qu'on ne peut jamais manquer à manger. Grâce à ce métier, j'ai acheté un grand champ en automobile. J'ai même déjà construit une maison à dur. Même la scolarisation de mes enfants, c'est grâce à ce travail.
Son travail est apprécié par d'autres conducteurs hommes, comme en témoigne ici Jimmy Paloukou.
Nous apprécions beaucoup sa façon de conduire. Elle maîtrise et respecte bien le code de la route, comme elle conduit sur différents axes. Elle a vraiment de l'expérience.
Elle dit avoir appris ce métier à d'autres filles, mais celles-ci n'ont jamais voulu jusque-là se lancer dans la course. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
La journée commémorative de la masculinité positive intervient le lundi 31 mars. Le thème choisi, masculinité positive pour la participation politique des femmes, par des actes et non par les paroles. Mais déjà, des séances de sensibilisation sont en cours. L'une d'elles a eu lieu mercredi à Kinshasa. Elle a réuni plusieurs acteurs clés pour discuter en amont autour de la question cruciale de la participation des femmes dans la politique. Ben Chokuta et Nancy Tambo signent ces reportages.
Cette rencontre organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants via la cellule technique mixte de la masculinité positive avec le soutien de l'ONU Femmes, la sélection du genre de la MONUSCO et les mouvements Rien sans les femmes a pour objectif de sensibiliser les hommes et particulièrement les politiques à l'importance d'une participation accrue des femmes dans cette sphère. Le ministre du Genre, Famille et Enfants a réaffirmé son engagement en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Je dis à tous les hommes d'accompagner cette idée prônée par le chef de l'État, lui qui a été promu comme champion de la masculinité. masculinité positive. C'est déjà un modèle pour tous les hommes qui peuvent emboîter le pas.
Pour l'ONU Femmes, l'implication des hommes politiques est essentielle. Il ne suffit pas de parler d'égalité, il faut agir.
En réalité, pour promouvoir la participation politique des femmes, c'est un processus interconnecté. Il y a tout un arsenal juridique qu'il faut revisiter. Et cette initiative purement congolaise, elle est excellente et ONU Femmes ne fait qu'accompagner ce genre d'initiative.
Maître Eddy Yave, expert en genre et résolution des conflits, a insisté sur le rôle de la jeunesse.
Mais on doit associer les jeunes dans tout ce qui est dynamique pour la promotion des droits des femmes, parce que demain, ceux qui sont jeunes aujourd'hui seront des dirigeants.
La cérémonie officielle de la journée de la masculinité positive aura lieu le 31 mars prochain à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa, où toutes les recommandations seront prises en compte.
Cette autre nouvelle, la Direction générale des impôts DGI annonce une échéance fiscale pour la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR au plus tard le 31 mars prochain. Cette échéance cible les employés du secteur public et privé. La soumission de cette déclaration est gratuite, mais les employés des entreprises publiques et privées qui ne se conformeront pas à cette obligation seront tenus de payer une amende. En quoi cette déclaration du mois de mars est-elle différente de celle du mois de février dernier? Écoutons Pierre Kabeya, chargé d'études à la division communication et documentation de la DGI, au micro de Jocelyne Moussaoupondé.
L'échéance du 15 février passé concernait les employeurs, tandis que l'échéance du 31 mars concerne les employés. Ça va nous permettre de voir la cohérence entre ce que l'employeur a déclaré et ce que l'employé a déclaré. Et cela, c'est aussi en prévision de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui va entrer en vigueur au mois de janvier 2026. Le non-respect de cette obligation fiscale entraîne une amende de 250 000 francs congolais dans le chef de l'employé défaillant. Toute personne concernée par cette obligation doit retirer et souscrire son formulaire de déclaration auprès du centre d'impôt synthétique du lieu de sa résidence. Il y a une autre possibilité. On peut télécharger à partir du site web de la DGI, dgi.gouv.cd.
Actualité internationale.
Tous les partis politiques au Niger ont été dissous par ordonnance du général Abdourahmane Tiani. L'annonce a été faite ce jeudi lors de la cérémonie où le chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a été proclamé président pour une période de 5 ans modulable, 20 mois après le renversement de Mohamed Bazoum. Ces mesures font partie des recommandations des assises nationales tenues le mois dernier.
L'invité.
5 mois après avoir reçu des mains du chef de l'État le chèque de 2 500 000 dollars américains en guise de la première tranche de l'indemnisation du Frivao à l'archidiocèse de Kisangani, l'autorité épiscopale locale fait le point de la répartition et de l'utilisation de cette somme par des entités bénéficiaires, des voies de redevabilité. C'était hier au cours d'une conférence de presse tenue par l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani, en même temps vicaire général chargé de l'économie et finances. Monseigneur Léonard Ndjadi s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Monseigneur Léonard, bonjour.
Bonjour.
À mi-parcours, quelle évaluation pouvez-vous faire du processus d'indemnisation?
L'évaluation est positive, étant donné que toutes les entités bénéficiaires ont été servies. Elles ont commencé des travaux. Les travaux sont en cours d'exécution et donc nous regardons déjà vers la fin de cette première tranche de travaux que nous avons entamés. L'évaluation est donc vraiment positive et satisfaisante pour nous tous.
Sur quelle base, quels critères avez-vous décidé de l'indemnisation de telle ou telle autre entité de l'Église catholique?
Et la première note, la plus importante, est de vérifier, d'authentifier les entités qui ont été réellement touchées et qui apportent des preuves, des témoignages qui corroborent effectivement qu'elles sont victimes. Elles ont été victimes de la guerre des 6 jours. Deuxièmement, il y a la contre-expertise du bureau chargé d'expertise immobilière qui va sur terrain pour vérifier si ce que les entités bénéficiaires ont déclaré est vrai. Et donc, c'est là la deuxième note. Ce sont sur ces bases-là sur lesquelles nous nous sommes fondés pour pouvoir indemniser les entités concernées.
Monseigneur, comment avez-vous procédé pour répartir cette somme?
On a procédé selon le dommage, en évaluant les dommages de chaque entité. Il y a comme la Caritas qui évalue à 8 000 $ ce qu'il présente comme dommage. Mais il y a par exemple la Procure, par exemple la Maison Monsengo, qui ont eu des dommages très grands. Du coup, on a évalué à 300 000 pour la Procure, 300 000 dollars, et 300 000 aussi pour la résidence Monsengo. Et donc, on a évalué selon les dommages subis par chaque entité.
Est-ce que les travaux sont en cours actuellement? Qu'est-ce qui se fait exactement sur terrain?
Comme vous avez vu projeter, tous les chantiers sont en cours d'exécution. Et c'est avec une grande satisfaction puisque les entreprises de construction qui ont été sélectionnées sont compétentes et donc cela permet d'obtenir à la fin de ces travaux de la qualité et de la durabilité.
Monseigneur, avez-vous prévu un mécanisme de contrôle pour le suivi de l'utilisation de cet argent?
Oui, il y a un mécanisme de contrôle. D'abord au niveau de l'archevêché. Et donc la commission rend compte à l'archevêque, mais aussi au collège des consulteurs, qui est comme le sénat de l'archevêque. Après, nous rendons compte aussi, comme nous venons de le faire, auprès de médias. En même temps, les travaux qui sont réalisés par chaque entité sont vérifiés par l'équipe de l'économat, qui envoie les chargés de projet avec une fiche de vérification des travaux. Donc il y a un contrôle et sur le plan financier, il y a un contrôle aussi sur le plan d'exécution des travaux.
Monseigneur, à quel moment estimez-vous que les travaux seront achevés?
Les prévisions annoncent la fin des travaux fin août. À la fin du mois d'août, nous pensons terminer les travaux, élaborer les rapports finaux documentés et envoyer à la Coordination nationale des Frivao, mais aussi à la présidence et à la nonciature apostolique.
Il reste, Monseigneur, la dernière tranche de la part de Frivao.
Et nous sommes en dialogue avec Frivao pour que, à l'issue de premiers travaux, nous puissions obtenir la deuxième tranche afin de servir les entités qui ont été touchées, mais qui, dans cette première tranche, n'ont pas été servies. Voilà pourquoi nous allons demander la deuxième tranche pour continuer le travail.
Monseigneur Léonard, merci.
Par ici s'achève ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda et mis en onde par Pierre Diassinois. Grâce à Mzati, c'était la présentation. Vous pouvez les réécouter sur www.radiocapi.net. Merci.